Bon, ben, mes chers amis, ce premier jour de notre rencontre sera consacré à retracer le chemin que Dieu a fait faire à l'humanité pour qu'elle arrive à dire son nom en vérité. Il s'agit donc de la révélation de Dieu. Car Dieu s'est fait histoire. Il est celui qui est, qui était et qui vient, trois aspects du temps, dans lequel Dieu lui-même a inséré notre existence et lui-même y est entré. La révélation de Dieu s'est accomplie dans une histoire, l'histoire de l'humanité, une histoire de Dieu au monde, et une histoire qui est forcément chaotique, puisque la conscience religieuse de l'homme est marquée par le péché d'origine. La Bible a rendu compte de l'histoire du dialogue entre Dieu et l'homme, les reprises incessantes de l'amitié divine, les chutes, les pardons de Dieu, et même ses colères devant tant de détournements de l'alliance qu'il avait conclue avec l'homme, pour que celui-ci puisse avancer sûrement pour le bien, dans le bien pour lui-même et aussi dans la vérité. Mais comment connaître Dieu? C'est notre première question. Et ensuite, nous essaierons de dire ce que fut la connaissance qu'eut le premier couple en Éden. Après la chute, la révélation s'est poursuivie au cours des 2 ou 3 millénaires d'histoire du monde ancien, avant même la migration d'Abraham. Et c'est avec Abraham qu'eut lieu une intervention de Dieu, le Dieu d'Israël, qui s'est révélé lui-même, mais après 2 ou 3 millénaires de la marche de l'humanité, qui n'avait pas cette révélation que Dieu a accordée à Abraham. L'Église prendra ensuite la suite, et les pères des théologiens développeront une théologie trinitaire dont nous vivons maintenant. Alors vous voyez, j'ai mis un résumé de tous les points que nous allons voir, si on a le temps de tout voir. Commençons par le premier, la question de la connaissance de Dieu. Eh bien, nous lisons en Saint Jean que Dieu est amour, 1 Jean 4:8, et que Dieu est lumière, 1 Jean 1:5, ce que nous savons bien, et que dans l'Évangile, le Verbe s'est fait chair et il habitait parmi nous. Eh bien, avec ces trois paroles, nous avons assez pour commencer une contemplation du mystère ineffable de Dieu. Puisque Dieu est amour et lumière, c'est donc par la connaissance que nous avons, que nous expérimentons nous-mêmes de la lumière et de l'amour, que nous pouvons nous élever vers un Dieu qui a créé le monde en réplique de son propre monde divin à lui, un monde d'amour et de lumière incréé. Il y a donc entre le monde divin et le monde créé une certaine ressemblance, puisque Dieu est le créateur de l'un et de l'autre. Alors nous pouvons saisir cette ressemblance parce que nous sommes nous-mêmes créés à l'image de Dieu. Le Créateur, dans son immense bonté, nous a donné la capacité de le connaître par ses œuvres qui se manifestent et par la révélation à l'intérieur même de notre esprit. En dehors de la révélation, nous n'aurons qu'une connaissance extérieure de Dieu, une connaissance que nous nous dirons naturelle, mais qui ne dira rien de son être personnel. Nous voyons donc le cadeau extraordinaire que Dieu nous a fait à nous, puisque nous avons la connaissance à travers ses paroles que Dieu était amour et lumière. Chose que nous ne saurions pas si nous n'avions pas eu cette révélation. Sachant qu'il est amour, je peux faire une expérience de lui-même en aimant moi-même. Je peux faire une expérience par l'amour que je reçois de lui, du bonheur qu'il me donne, puisque l'amour nous rend heureux, du fait que je suis à son image et ressemblance. Et en faisant cette expérience de l'amour et de la lumière, eh bien, déjà, je pressens ou je connais déjà d'une certaine façon Dieu, puisqu'il est lui-même lumière et amour. Sachant qu'il est lumière, je reçois d'être éclairé dans mon esprit, de sorte que je ne vais pas marcher dans les ténèbres. Je ne errerai pas dans l'approche de faux dieux, qui ne sont que des idoles dont le monde en est plein. La lumière va m'apporter à l'intérieur de mon esprit ce que le soleil apporte à l'extérieur dans le monde créé. Quand je me sens uni à Dieu, mon âme est en paix. Rien ne la gêne. Elle se sent pure parce qu'il n'y a pas d'ombre en elle. La lumière, comme l'amour, me révèle un Dieu de beauté et de bonté, un Dieu de bonheur paisible que je trouve en lui. Saint Augustin a fait l'expérience de ce bien après sa conversion, au sortir d'une vie qui ne lui apportait que tribulation de la chair. Et pour cela, il lui fallut entrer dans la profondeur de sa propre vie. Et il le dit magnifiquement, « J'ai tardé à t'aimer, ô beauté si ancienne et si neuve, j'ai tardé à t'aimer. Ah, voilà, tu étais dedans et moi j'étais dehors. Je te cherchais dehors et tu étais avec moi, en moi, sans que je fusse avec toi. Tenu par toutes ces belles choses, tes ouvrages, qui, à moins d'être en toi, ne seraient pas. Alors rendons grâce au Seigneur de l'inappréciable cadeau, de la grâce, de la connaissance de lui-même qui nous a faite par la révélation et qui nous a accordé d'avoir foi dans ses paroles de révélation. Cette connaissance, elle était celle du premier couple. Elle était, nous dit la Genèse, sans ombre. Elle vivait dans la clarté du Seigneur. Et c'est ce que nous enseigne la Bible dans le récit de l'Éden. Alors, deuxième moment de toutes ces réflexions, la première connaissance du Créateur. Eh bien, nous connaissons le récit de la Genèse, où Dieu planta un jardin en Éden et y plaça le premier couple. Qu'est-ce que ce jardin ? Certainement, une oasis dans le désert, qui a dû servir pour faire ce récit. Pour comprendre son enseignement, il faut se reporter au livre des Éphésiens. Le premier chapitre traite du plan divin du salut. On lit dans ce chapitre des Éphésiens, que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans le Christ. Il nous a élus dès avant la fondation du monde pour être saints, immaculés en sa présence dans l'amour, déterminant d'avance que nous serions pour lui des fils adoptifs par Jésus-Christ. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, contrairement à ce que peut dire l'évolution naturelle, notre origine à nous est divine. Nous sommes nés en Éden, c'est-à-dire dans l'amour et la lumière du Créateur. Notre existence remonte à ce moment où Dieu nous crée par pur désir de nous rendre heureux pour partager son bonheur. Nous portons en nous cette première naissance hors du temps, avant d'entrer même dans le temps. Nous sommes destinés, comme le dit saint Paul, à réaliser pleinement cette vocation d'union à Dieu, et tel est le sens de notre existence terrestre. Nous n'aurions pas dû avoir d'autre chemin que de vivre dès notre naissance en Dieu, dans ce chemin d'amour et de lumière qu'est Dieu. Hélas, nous le savons, il y a eu le péché qui a tout cassé. Mais chaque personne qui vient en ce monde porte en elle le sceau divin de son origine d'Éden, une empreinte indélébile qui l'appellera au fur et à mesure de son histoire terrestre, à réaliser ce mystère d'enfant de Dieu qui fait sa vocation et qui le poursuivra tout au long de sa vie. En Éden, les parents avaient la grâce d'une connaissance intime du Créateur, nous dit la Genèse. Ils venaient le soir s'entretenir familièrement avec eux. Nous avons donc, nous aussi, gardé cette grâce comme une nostalgie de connaître Dieu, d'entrer en dialogue avec lui. Et toute notre vie de prière est tendue vers le moment où les cieux enfin s'ouvriront pour nous. Car tout notre désir le plus profond est de vivre dans l'amour et dans la lumière d'une vie qui n'aura pas de fin. À l'image du Dieu Trinité, nous avons besoin de vie fraternelle, de rompre nos solitudes pour vivre dans la communion. À l'image du Dieu Trinité, et tout le monde a en lui-même ses désirs profonds inscrits dans son cœur, dans son être. Nous aurions pu perdre complètement la réalisation de ce désir profond qui fait notre vocation si le Père, qui nous avait tant aimés, n'avait pas voulu nous racheter par son Verbe fait chair en Jésus-Christ. Et c'est ainsi que la chute devint un exil, mais avec une espérance de salut. La Bible ne nous dit rien de plus spécial sur les 2 ou 3 millénaires qui virent nos ancêtres vivre une vie de confusion par rapport à Dieu, de confusion avec les idoles diverses, et de ces ancêtres qui étaient condamnés à crier vers Dieu sans savoir que le Fils de Dieu même les écoutait. Essayons de voir ce que fut la première conscience religieuse de ces lointains ancêtres. Ah, il y a un petit problème avec Patrice.
Oui, mais ça fait rien.
Vas-y, continue.
Je continue. Eh bien, quelle a été, troisième partie, quelle a été la conscience religieuse de l'homme après la chute de l'Éden? J'étais très intéressé pendant tout ces temps-ci pour relire particulièrement les premières civilisations, et en particulier sumériennes. Mais les premières civilisations sont appelées sumériennes, acadiennes et babyloniennes. Eh bien, nous constatons, à les lire, que l'humanité, après la chute, a quand même conservé l'idée de Dieu. Mais sa connaissance a été altérée. L'homme est devenu myope des réalités d'en haut. Il s'est retourné vers celle de la terre. Et nous voyons aujourd'hui, c'est cet aujourd'hui de notre histoire actuelle, tous les cultes divers des idoles, la sacralisation des choses naturelles, des phénomènes célestes, des lieux, des plantes, des animaux, tout a servi pour faire des idoles. La conscience d'un Dieu unique s'est fragmentée dans une multitude d'entités et le résultat est une impiété généralisée. Saint Paul nous a décrit longuement l'état de l'humanité après la chute. L'homme qui devait, malgré la chute, reconnaître Dieu à travers ses œuvres est devenu païen, incapable de reconnaître la divinité. Et pourtant, nous dit saint Paul, ce qu'il y a d'invisible depuis la création du monde se laisse voir à l'intelligence à travers les œuvres. Les œuvres de Dieu, son éternelle puissance, sa divinité, en sorte qu'ils sont inexcusables, puisque ayant connu Dieu, malgré tout, ils ne lui ont pas rendu comme à un Dieu gloire ou action de grâce, mais ils ont perdu le sens dans leur raisonnement et dans leur cœur inintelligent qui s'est enténébré. Ce tableau est dur, dur pour l'homme des premières civilisations, qui effectivement s'est entouré d'une multitude de dieux et de déesses dont la vie était aussi corrompue que pouvait l'être celle des hommes. Néanmoins, malgré tout, nous pouvons rester émerveillés par des prières de ses ancêtres quand on lit les récits de leur tradition des trois premiers millénaires qui manifestent la miséricorde de Dieu envers des créatures pécheresses. Je lis par exemple des textes qui témoignent de cette grande affection du cœur de Dieu, de sa miséricorde. Voici par exemple des paroles qu'on a retrouvées dans les petites tablettes qui sont sorties de Sumer et des sables et qui ont été traduites. « Je me suis tourné vers toi, mon Dieu. Je suis venu en ta présence. Je t'ai cherché, mon Dieu. Je me suis agenouillé à tes pieds. Daigne accueillir mon imploration. » Cette conscience d'une bonté bienveillante de Dieu se double même d'une compassion, d'une bienveillance, d'une droiture envers le prochain. Car on peut lire ceci, « À qui te fait du mal, rends le bien en échange. Qui est méchant pour toi, reste juste avec lui. Ceux qui sont dans l'épreuve, ne les prends pas en dédain. Fais des gestes secourables, rends tous les jours service. Ne calomnie pas, dis de bonnes paroles, ne tiens pas des propos méchants. N'est que des mots de bonté. » C'est remarquable de lire des choses de ce genre. La vie pourtant de l'homme en ces temps n'est pas bonne, et on trouve les mêmes accents que l'on trouve chez le Job biblique. On peut lire en ceci, « Seuls les dieux vivent à jamais sous le soleil. Quant à l'homme, ses jours sont comptés, et quoi qu'il fasse, ce n'est que du vent. » Le monde ancien a donc dû attendre longuement sa rédemption par la venue du Christ. Et nous pouvons dire que ce monde païen, séparé de Dieu, indifférent, violemment hostile, souvent n'est pas mort. On le voit autour de nous, avec les mêmes caractéristiques que lui donnait saint Paul. Et pourtant, pour nous, la rédemption a eu lieu. L'humanité a parcouru 2 millénaires d'histoire chrétienne pour en arriver là où nous sommes aujourd'hui. Les idoles sont toujours bien vivantes. Elles se recrutent dans les sports, dans les reines d'un jour, dans toute une presse à sensations. Le monde des jeunes est sans défense pour avoir abandonné la protection de l'Église. L'indifférence pour la recherche de la vérité donne aux démons un accès facile jusque dans les esprits humains qu'ils infectent. Est-ce que ce monde contemporain que l'on dit civilisé l'est plus que celui de ses premiers temps? Quatrième partie, intitulée « Le cri, une révélation de Dieu ». Nous venons de dire que malgré la chute, l'homme a conservé une conscience de l'existence des êtres supérieurs auxquels il s'est adressé pour obtenir de l'aide. Mais il n'a eu qu'une idée enténébrée de ce que sont ces puissances qui peuvent à la fois se montrer redoutables et pour lesquels le plus souvent il faut offrir des sacrifices d'apaisement. Dans le climat d'angoisse devant le mystère, on peut penser, comme le propose le professeur Edmond Jacob dans son livre « Théologie de l'Ancien Testament », que c'est devant les forces supérieures de la nature, l'orage, les éclairs, le tonnerre, les tremblements de terre, les ouragans, les tempêtes des mers, que l'homme s'est senti dépourvu pour exprimer son saisissement et articuler un cri d'effroi. Ce cri nous est différent. Nous l'écoutons les premiers cris des oiseaux qui saluent le jour nouveau, comme de vrais adorateurs de Dieu. Ce sont des cris de joie, de louange, et la parole nous invite le matin à nous unir à la louange cosmique. Et nous le faisons par les heures avec les psaumes et la parole, comme ce matin. Mais la nature, en même temps, fait aussi entendre d'autres cris que je perçois quand un oiseau est entre les pattes d'un prédateur qui lui dévore sa vie. Le chant du monde est à la fois louange et tragédie. Il est une liturgie de la vie et de la mort. Dans le rythme des saisons, nous accueillons la joie, le renouveau du printemps. Et puis, quand la nature sort de son domaine hivernal, et puis nous entrons avec elle, comme c'est le cas maintenant, dans le dépouillement de la mort. Et c'est ainsi que le mot « Yah », qui est inclus dans le tétragramme sacré « Yahvé », aurait pu être un cri dans lequel Dieu aurait pris sa place. Ce cri se serait enrichi au fur et à mesure du temps. Il serait entré dans le langage de l'homme en apportant chaque fois une meilleure connaissance du mystère de Dieu et de l'homme. Le premier cri de saisissement, « Yah !» au fur et à mesure du temps est devenu « Yah, Yah, Yah !» C'est-à-dire qu'il est entré dans un vocabulaire et qu'il est entré dans tout ce qui est les mots de l'homme. Et nous verrons qu'il y est entré à un point tel qu'il est entré jusqu'au moment de l'incarnation. Ce « Yah » devenu « Yahvé », c'est Jésus. Donc ces premiers cris de saisissement « Yah » naturel, ce qui s'est enrichi au fur et à mesure de l'histoire. Cette vision nous intéresse beaucoup parce que cela signifie que le cri tout humain porte en lui la révélation d'un Dieu qui s'est fait humain. Il est entré jusque dans nos entrailles d'homme en se faisant chair dans la Vierge. Le Père a envoyé son Fils dans une chair semblable à la nôtre pour refaire une humanité déchue par le péché d'origine. À l'origine, le projet du Créateur n'était pas d'insérer dans la vie des hommes des cris de souffrance. Nous avons dit que dans l'Éden, les cris du premier couple étaient que des cris de joie. Ils connaissaient une vie bienheureuse et cela aurait pu perdurer. C'est le péché qui a converti les premiers cris de joie en cris de douleur. En faisant partie du langage de l'homme, conscient de lui-même, le cri s'est donc enrichi de nouveaux sens au fur et à mesure de l'histoire, de la compréhension du mystère de Dieu et de l'homme. La vie se manifeste ainsi de façon qu'on ne peut l'enfermer dans un seul registre. Néanmoins, certainement que le cri a été une des plus fortes expressions de l'homme dans sa quête aussi de Dieu. L'enfant qui vient au monde, il vient en criant. Tant d'hommes et de femmes quittent ce monde dans des cris de souffrance et aussi d'angoisse de l'homme. Ce cri qui se module dans la vie de l'homme en cri de joie et en cri de souffrance, de désespoir et parfois de haine, Jésus l'a épousé pleinement dans sa vie humaine, en le portant jusqu'à l'agonie sur la croix. Saint Marc, Saint Matthieu nous rapportent ce cri de Jésus, qu'il clame en un grand cri « Eloi, Eloi, lema sabachthani » Matthieu 27, 45 et Marc 15, 34. Luc, lui, écrit, jetant un grand cri, Jésus dit, « Père, en tes mains je remets mon esprit. » Ayant dit cela, il expira. Luc 23, 46. Eh bien, ce cri du Fils de Dieu a révélé un sens nouveau à la vie humaine. En entrant dans sa mort, l'humanité pécheresse, en entrant dans sa mort, l'humanité pécheresse, Jésus l'a fait mourir avec lui, dans sa propre mort à lui, pour la faire renaître dans sa résurrection. Ce cri d'origine est devenu un cri de naissance, plus que le cri de l'enfant qui vient au monde. C'est maintenant pour nous le cri du baptisé dans le Christ qui naît à la vie nouvelle. Ce cri-là nous habite. Il est notre prière. Il est notre prière chrétienne que nous modulons par des chants, des psaumes, des hymnes. Il nous habite. Il en est la confession de notre foi chrétienne. Cinquième partie. Dieu révèle lui-même son nom. Dieu aurait pu laisser l'homme errer définitivement. Mais déjà, au soir de la faute, il annonce une rédemption par la femme qui écrasera le Satan. Eh bien, cette annonce nous vient d'un groupe d'Hébreux que Dieu a choisi pour éclairer d'un jour nouveau le mystère de l'histoire. La Bible a été donnée à ce peuple, qui est un peuple sémitique du Proche-Orient. À l'origine, ce peuple est un peuple de nomades, de marginaux, on pourrait presque dire comme les gitans non sédentarisés de nos jours. Ils sont originaires de Chaldée, en Mésopotamie. Ils vivent sous des tentes. Ce sont des éleveurs de moutons, de chèvres. Ils utilisent des ânes comme porteurs. Quand est-ce que ce peuple est-il apparu? Eh bien, pour cela, il faut interroger l'histoire de l'humanité. Et on lit que aurait pu exister au troisième millénaire avant Jésus-Christ un peuple indo-européen fait de tribus guerrières et qui aurait progressivement envahi l'Europe et l'Asie. Les Hébreux, connus alors sous le nom d'Apirou, sont nés au milieu de toutes ces tribus pour être une tribu parmi d'autres. Dans le Deutéronome, nous lisons, Moïse déclare, « Tu diras, mon père était un Araméen errant qui est descendu en Égypte. » C'est ce groupuscule que Dieu a choisi pour communiquer les vérités les plus importantes pour l'humanité et en premier lieu, pour lui donner la révélation de son propre nom. Et c'est ainsi que la vérité définitive nous est parvenue jusqu'à nous grâce à ce petit groupuscule d'Apirou, d'Hébreu. Nous voyons donc que Dieu a voulu, malgré la chute, garder son œuvre, la création de l'homme. C'est donc du milieu d'un monde paganisé et qui le restera jusqu'au bout, marqué par la conscience de l'existence de Dieu, très faiblement, comme nous l'avons vu tout à l'heure, qu'apparaît tardivement, peut-être 3 millénaires après, on pourra en discuter, qu'apparaît donc un petit groupuscule que Dieu choisit pour lui donner une nouvelle révélation, comme si une nouvelle information, une nouvelle révélation authentique de lui-même, et dans des formes qui vont rester humaines et qui vont respecter ce peuple. Et on comprend, quand on lit la Bible, que ce peuple ne cesse pas de revenir lui aussi vers les idoles, et que Dieu sera toujours à lutter pour que il puisse recevoir sa révélation d'une façon beaucoup plus pure. Il sera toujours attiré, lui aussi, comme les autres, dans le milieu dans lequel il naît, par les idoles. Peut-être peut-on s'étonner de ce que Dieu ait attendu si longtemps avant d'intervenir à la plénitude du temps, comme le dit saint Paul. La révélation que le patriarche Abraham va recevoir, alors qu'il est lui-même un païen, issu de ce petit groupe, ne viendra que 3 millénaires peut-être de la vie des hommes. Eh bien, cette révélation sera particulièrement transmise aux prophètes de ce peuple choisi. Mais ce peuple restera donc attiré par les idoles comme tous les autres peuples, et ce sera dans une histoire dramatique que va naître le Fils de l'homme, Jésus. Sixième partie. Dieu s'appelle Elohim et Yahvé. C'est au premier verset de la Genèse que nous allons lire maintenant le nom de Dieu révélé par lui-même. Nous devons nous arrêter à ce nom sublime, d'où provient tout ce qui est. Qui a instruit l'homme de la Genèse sur l'existence de ce nom, sinon le nom lui-même? Un événement a dû avoir lieu, qui dépasse l'histoire humaine et celle même du cosmos. Une décision libre du nom créateur, de cet Elohim dont parle la Genèse. Bereshit, Bereshit, Bara, Elohim. Au commencement, Elohim créa le ciel et la terre. Premier verset de la Genèse. Et cette décision de Dieu, elle est avant tout, antérieure à tout. Elle marque un nouveau commencement. Pour essayer de comprendre cet événement, il faudra aller jusqu'à l'avènement de l'incarnation du Verbe de Dieu, qui est ce nom créateur. C'est lui qui a créé le ciel et la terre, qui s'est manifesté dans une vie humaine, celle de Jésus de Nazareth. C'est lui qui parle à ce moment-là, qui donne la révélation de son propre nom. Et on connaît cette citation de saint Paul en Colossiens 1,15, « Il est l'image du Dieu invisible, premier-né de toute créature. En lui, Jésus, tout a été créé au ciel, dans les cieux, sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes, seigneuries, principautés, puissances. » C'est-à-dire le monde entier, angélique, humain, cosmos. La Genèse, au premier mot de au premier verset de la Genèse, elle nous annonce donc un événement avec un nom divin, Elohim. Et Elohim qui va se révéler au long d'une histoire qu'on va reprendre maintenant, qui va se révéler être le nom de Jésus le Christ, créateur des cieux et de la terre. Ce nom, au-dessus de tout nom, apparaît dès son entrée dans notre univers humain, comme un nom pluriel. Selon la révélation, ce qui ne sera pas le cas lorsque nous demanderons à l'histoire des religions par quel nom elle nomme le nom absolu. L'histoire des religions, dont nous en parlerons, est incapable de nous parler d'un Dieu pluriel. Elohim est un nom pluriel. Il porte déjà en lui une mystérieuse annonce d'une communauté divine incluse dans ce nom. On le rencontre dans la Bible sous des formes différentes. On a Eloah, El, El. Ce sont des noms qui appartiennent à la culture sémitique. Ils peuvent désigner des dieux, des Elohim, des petits dieux, par exemple les Elohim des gentils, auxquels il est interdit d'offrir des sacrifices en Exode 22-19. ou bien des dieux des cultures nationales, des ailes, des Elohim, comme en Deutéronome 29, 19. Le nom El, E-L, qualifie la force, la puissance, le pouvoir. Eh bien, si Israël a attribué ces noms d'Elohim, d'Eloha ou d'El à son Dieu, c'est parce qu'il pouvait exprimer la puissance d'un Dieu souverain au-dessus de tous les dieux qui s'avéreront être des idoles, des faux dieux. Et ainsi, par cette première révélation de Dieu, c'est une nouvelle information qui entre dans l'histoire humaine. Le temps est accompli. Dieu intervient lui-même. Et la personnalisation du Dieu de la révélation va s'accomplir à nouveau, mais avec un pas en avant dans la révélation du buisson ardent. Nous passons d'Abraham, qui reçoit du début de la Genèse, avec la révélation « Dieu s'appelle Elohim ». Et maintenant, au fur et à mesure de l'histoire qui avance et qui avance vers Jésus, il y a cet épisode, entre-temps, du buisson ardent, où Dieu va donner une nouvelle information de lui-même. C'est Moïse qui va le recevoir quand il entend dire « Si je vais trouver... » qui reçoit cette révélation de ce Dieu. Moïse, devant le buisson ardent, pose la question à Dieu, « Si je vais trouver les Israélites et que je leur dis, le Dieu de mon père vient de m'apparaître, il m'envoie vers vous, quel nom vais-je leur donner? Que leur dirai-je ? » Alors Elohim dit à Moïse, « Je suis qui je suis » ou encore « Je serai ».« Je serai » m'a envoyé vers vous. C'est mon nom pour toujours. C'est ainsi que l'on m'invoquera de génération en génération. Exode 3, 13. Eh bien, en lisant ce texte, on peut se demander pourquoi les Juifs, et aujourd'hui aussi le magistère, refuse qu'on prononce ce don, ce tétagramme sacré, et de le remplacer par d'autres appellations. Ce que les Juifs ont fait, au fur et à mesure de l'histoire, en ne prononçant plus le nom de Yahvé, du tétragramme sacré, disons, et le remplaçant par des mots comme le béni, le ciel, ou Adonai, ou encore l'éternel, qui est peut-être le nom qui convient le mieux. Eh bien, il me semble qu'il y ait plus qu'une raison de respect à agir ainsi. Car prononcer un nom sur telle et telle chose, c'est de le maîtriser, c'est de le posséder. Dieu donne à Adam de donner des noms à chacune des créatures qu'il lui présente dans la Genèse pour qu'ils en soient le maître. Dire le nom de Dieu serait donc prendre une certaine mise, une main mise sur lui. Ce serait le rabattre au rang des êtres connus. Il y a peut-être plus encore. Dans les méditations que nous pouvons faire, Adam a reçu l'essentiel de la connaissance de Dieu Donc Moïse a reçu l'essentiel de la connaissance de Dieu en voyant dans ce buisson un feu d'existence. Il en a rendu compte, non pas par sa parole, mais par une parole qu'il a entendue venant de Dieu. C'est Dieu qui lui parle. C'est Dieu qui lui révèle qu'il est un existant absolu. Il est comme ce buisson qui brûle sans se consumer, une force d'existence. Il lui révèle qu'il est l'existant absolu, avant, pendant, après, que l'éternité est son lieu d'être au-delà de tout. Et pour donc révéler cette puissance d'existence, Dieu lui-même a inséré cette révélation dans un langage humain, langage des Hébreux. La question intéressante que nous pouvons nous poser, c'est de savoir si la révélation que nous recevons, que à ce moment-là Moïse a reçue, était-ce une révélation complète de Dieu ? Il y a d'abord eu la révélation d'Élohim. Il y a maintenant la révélation du tétragramme sacré, on va l'appeler Yahvé. En fait, est-ce une plénitude de Dieu qui se révèle ? Mais Dieu peut-il se révéler dans une plénitude complète ? Dieu est au-delà de tout. Alors, qu'est-ce que, en fait, Moïse a reçu ? Il a reçu une ouverture au mystère. Et quand nous lisons tout ce qui touche dans la profondeur de Dieu, nous devons donc faire un silence, un laisser une inconnue. Dieu se dit sans se dire, parce qu'il est Dieu. Dieu se dit suffisamment en restant maître de son mystère ineffable. Dieu est inépuisable. Nous n'aurons jamais que des aspects de lui-même. Ici, c'est un aspect important, définitif peut-être pour notre connaissance humaine à nous. Mais ce n'est pas la totalité. Qu'est-ce que Moïse a entendu exactement ? Il a entendu quelque chose qui est entré dans sa conscience humaine, dans son intelligence, et à travers le langage que Dieu lui a donné. À travers ce langage, ce qu'il a entendu a été formulé en certains mots et a donné lieu à cela qui fait partie de sa langue. Yahvé, il est, je serai. Voilà ce qu'il a entendu. C'est suffisant pour Dieu, pour l'histoire humaine, parce qu'à partir de ce moment du buisson ardent, il y a un inconnu qui est en marche et qui va grandir et se révéler au fur et à mesure de l'histoire. Cet inconnu, l'histoire va le recevoir, un complément à l'heure voulue par Dieu, à l'heure de la plénitude. Et ce complément sera Jésus de Nazareth. Quand les pères vont recevoir le nom de Jésus, quand ils vont méditer sa vie, automatiquement ils vont revenir vers le buisson ardent. Parce qu'avec leur génie, avec l'aide du Saint-Esprit, ils vont pouvoir lire que là, Dieu avait à la fois donné son nom et laissé ouvert un complément qui n'arrivera qu'à son temps, Jésus de Nazareth. Et alors, nous entendrons Jésus dire « Je suis ». Le même « Je suis » que Moïse a entendu au buisson ardent. Parce qu'au buisson ardent, c'était Jésus lui-même, dans sa préexistence, qui déjà était là et qui parlait, avant qu'il prenne chair. On l'appelle Asarkos avant qu'il devienne dans la chair. Ce même Dieu, ineffable, insaisissable, s'est livré dans le sentiment de l'existence, s'est révélé en Jésus. Un Père qui a tout créé par amour et qui envoie son Fils par amour pour sauver le monde. Ainsi, la transcendance pour nous chrétiens est devenue une transcendance d'amour. L'existence n'est pas quelque chose que les philosophes peuvent méditer, peuvent... Pour nous, la transcendance de Dieu, c'est quelque chose qui est au-delà de toute forme d'intellectualisation qu'on peut en faire. La transcendance de Dieu, pour nous, elle est dans Jésus. C'est une transcendance d'amour envoyée par le Père, mais qui reste une transcendance et qui restera éternellement une transcendance. De sorte que quand on est en face du Seigneur Jésus, il faut toujours à la fois recevoir, voir en lui ce Dieu d'amour qui s'incarne, et en même temps ce Dieu au-delà de tout. Jésus est à la fois la révélation et de l'amour, de la lumière. C'est pourquoi nous avons commencé notre réflexion par l'amour et la lumière. Et il est en même temps la révélation de la toute, de l'au-delà de tout. Le nom divin est désormais pour nous celui de Jésus, Fils de Dieu. Il est celui dont nous recevons la présence par le don du Saint-Esprit, celui qui nous l'a fait porter en nous-mêmes, celui qui nous annonce le Père par la bouche de son Fils unique. Pourquoi alors nommer l'Éternel par le mot « Dieu » ? Mais quel est donc ce mot « Dieu » ? Ce mot qui n'apparaît pas dans la Bible, qui n'est pas dans la révélation juive. Dieu n'a pas dit « Dieu, je suis Dieu », il n'a jamais dit ça. Dieu a dit « Je suis Elohim », « Je suis celui qui est ». Il n'a jamais dit « Je suis Dieu ». Alors pourquoi utilise-t-on ce mot ? Qu'est-ce que c'est que ce mot ? Et nous, nous disons Père, Fils et Saint-Esprit. Nous disons, bien sûr, dit Dieu. Alors, pourquoi dit-on Dieu ? D'où vient ce mot ? Eh bien, ce mot, en fait, vient du latin Deus, qui provient lui aussi d'une racine indo-européenne, et cette racine, c'est Dei. Et ce mot Dei est un mot qui porte en lui-même une intuition de la lumière. Et c'est tout à fait normal, puisque ça nous reporte au premier temps, ou bien le cri, on a vu l'importance du cri, mais on peut voir aussi l'importance de la lumière dans le monde dans lequel nous sommes, dans ce cosmos. Et il a fallu aussi que la lumière, c'est la lumière du soleil, c'est la lumière des astres. C'est tout ce qu'il y a au-dessus de nous, c'est la chaleur, c'est tout ce qui nous apporte la vie. Donc il était tout à fait normal qu'à un certain moment, on puisse dire qu'il y a un être que l'on peut signifier par le mot de la lumière, Dei. C'est donc une intuition de la lumière qui est à l'origine de ce mot. Il désigne le ciel comme le lieu de la divinité en opposition à la terre des hommes. Le nom de Zeus, donc en grec, porte le même qualificatif de la lumière, car le nom Zeus, au génitif de ce mot, c'est Dios. Donc on retrouve le mot Dei, le mot de lumière. Le mot jour, en latin, c'est Dies. Nous sommes dans un univers de la lumière en parlant de Dieu. Et d'une certaine façon, c'est la miséricorde de Dieu, là encore. Car on lit dans les paroles, la parole de Jésus, « Je suis la lumière du monde. Qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. » Maintenant, quand on passe dans les langues germaniques, qui sont aussi issues de l'indo-européen, le nom de la divinité n'est plus Dei. C'est Gott, en allemand Gott, en anglais God, bien sûr. Et il y a encore d'autres mots de ce genre. Alors il ne désigne plus la lumière. Il désigne une invocation. Alors on voit dans le fond que dans le langage humain, avec toutes les différentes cultures, le mot de du mystère qui nous dépasse tous a pris des significations différentes. Mais toutes ces significations ont laissé une connaissance extérieure de Dieu. Et Dieu a voulu qu'il y ait un peuple, une souche, à travers laquelle il va se dire lui-même. Et la révélation pour nous, c'est Elohim, Yahvé, Jésus. Huitièmement, le passage du monothéisme à la Trinité. Eh bien, nous serions restés des Juifs si le Père ne nous avait pas envoyé son Fils pour nous révéler ce qui avait été déjà commencé dans l'Élohim, une révélation, une communion interne de son être éternel. À ce niveau-là, ce n'est plus Dieu. Dieu qui est simplement une idée de la divinité inconnue. Pour nous, Jésus de Nazareth, notre Dieu à nous, c'est Jésus qui nous révèle le Père dans la puissance du Saint-Esprit. La communauté divine incluse dans l'Élohim et qui se révèle en Jésus dans sa plénitude. Notre foi chrétienne nous fait maintenant confesser l'existence de ce Dieu d'Israël en trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit, dont la révélation s'accomplit dans une nouvelle alliance. Et Jésus est venu pour réaliser cette nouvelle alliance, qui est la nouvelle connaissance définitive de Dieu. Et c'est celle que nous célébrons tous les jours dans l'Eucharistie. Cette révélation avait commencé, mais pour aller plus loin, il a fallu l'incarnation. Saint Grégoire de Nazianze écrit ceci. L'Ancien Testament a clairement annoncé le Père, mais le Fils d'une manière confuse, obscure. Le Nouveau Testament a révélé le Fils et il est laissé entrevoir la divinité de l'Esprit. Et maintenant, l'Esprit habite parmi nous. Il se manifeste plus clairement. Quand la divinité du Père n'était pas encore reconnu, il n'aurait pas été prudent d'annoncer ouvertement celle du Fils. Et quand la divinité du Fils n'était pas encore admise, il n'aurait pas été prudent d'imposer, si je peux dire, un nouveau fardeau aux hommes en leur parlant de l'Esprit-Saint, sinon tels des gens fatigués par une nourriture trop lourde ou qui auraient regardé la lumière du soleil avec des yeux encore malades. Ils auraient risqué de perdre les forces déjà acquises. Il fallait donc, par des procédés, par des perfectionnements successifs, par des ascensions, suivant le mot de David, il fallait s'avancer de clarté en clarté, par des progrès et des poussées toujours plus brillantes, pour voir enfin luire la lumière de la Trinité. C'est pour cette raison, n'est-il pas vrai, qu'il se communique progressivement aux apôtres, se mesurant à leur capacité. Eh bien, cette dernière parole, elle nous est adressée directement, cette révélation qui aussi se fait progressivement dans chacune de nos esprits, de nos cœurs, et qui a deux grandes lignes que nous avons vues tout à l'heure, la connaissance de la lumière et de l'amour. Par la lumière, c'est une connaissance plus intellectuelle, une connaissance du mystère par la raison, par l'intelligence humaine, secourue par le Saint-Esprit, et par le cœur, la connaissance de l'amour, du Dieu amour et lumière. Et c'est cette révélation définitive que nous apporte le Seigneur Jésus, une révélation d'un Dieu qui était déjà dans les fibres humaines, dans le cri de l'homme, et qui s'est modulé au fur et à mesure du temps pour devenir le Dieu d'amour qui nous fait être des frères ensemble et un père avec un père qui veut notre filiation de fils de Dieu.